Amis de Radio Occitanie et de la Poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Nous allons ce soir avoir avec nous, à cette antenne de Radio Occitanie, J'aime Sacré. J'aime Sacré, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et de nous consacrer cette heure de notre émission Les Poètes. Alors, J'aime Sacré, nous avons, il y a quelques années, je ne me souviens pas, j'ai pas eu le temps malheureusement de regarder, mais je sais qu'il y a quelques années, nous avons consacré une émission à J'aime Sacré, et c'était à propos de America Solitude qui venait de sortir chez André Dimanche, éditeur. Et j'avais lu avec grand plaisir des extraits de ce magnifique livre, que j'avais dédié d'ailleurs à une amie qui... vie moitié aux États-Unis, moitié chez nous. Alors, aujourd'hui, J'aime Sacré, vous êtes dans cette collection prestigieuse qui a fêté ses 50 ans, il y a peu de temps, la collection Poésie Gallimard, NRF, ces petits livres de poche merveilleux que l'on a découvert il y a 50 ans, hein, avec le Capital de la douleur, je crois que c'était.
Oui.
Le premier titre, donc un très beau travail de Gallimard, qui constitue là une bibliothèque. Et donc c'était une joie de vous voir figurer dans cette collection prestigieuse. C'était une joie, je disais, mais pas une surprise. Hein, je pense que on s'y attendait. Alors, J'aime Sacré, vous êtes né en 1939 à la ferme familiale en Vendée, dans le village de Cogou, c'est près de Saint-Hilaire des Loges. Hein.
Oui.
Donc 1939, c'est-à-dire début de la Deuxième Guerre mondiale.
Ah oui, oui.
Vous êtes allé à l'école primaire de Collonges sur l'Autise, donc c'est dans le département des Deux-Sèvres. Et puis vous avez été élève au collège François Viette à Fontenay-le-Comte et ensuite à l'école normale d'instituteurs de Parthenay. Donc votre carrière a commencé comme instituteur, puis instituteur itinérant agricole. Et vous êtes parti aux États-Unis en 1965.
Voilà.
Alors là, aux États-Unis, vous avez obtenu rien de moins qu'un doctorat américain au Boston College, donc à Boston.
Oui.
Et vous avez fait des séminaires lors de séjours en France. Vous avez eu la direction de programme de Junior Year Abroad, je ne sais pas ce que c'est. Et vous avez pris des années sabbatiques aussi. Vous avez été enseignant donc en langue et littérature française dans l'université américaine de Sims College, donc de 1972 à 2001,
oui.
Pendant très longtemps. Alors ça, on m'a posé la question cet après-midi, je n'ai pas su répondre. C'est où Sims College?
Sims College, c'est dans l'ouest du Massachusetts.
D'accord, d'accord. Alors, indépendamment donc, de cette carrière qui est une carrière professionnelle, vous participez au comité de rédaction de la revue Oracle,
oui.
Puis de la revue Triage et donc des éditions Tarabuste, édition Tarabuste dans laquelle vous avez fait paraître certains textes, donc un que j'ai beaucoup aimé, avec des illustrations de Pierre-Yves Gervais,
oui.
Et l'Anacoluptère, j'ai trouvé
oui.
Ça
oui.
Vraiment très agréable à lire, bien illustré, et avec une langue, c'est vraiment un délice. Donc des éditions Tarabuste, et vous avez eu des prix de poésie, alors le prix Broquette-Gonin, c'est un prix qui est décerné par l'Académie française, vous l'avez eu en 1972,
hein. Oui.
Le prix Obsidiane en 1983, le prix Apollinaire, qui est quand même un des prix les plus prestigieux dans le monde de la poésie française. en 88, puis le prix Antonio Vicaro, là je ne connais pas, en 1999, et puis le prix Max Jacob en 2010, prix prestigieux également. Alors non, vous avez fait de nombreux séjours et des voyages en Europe, vous connaissez bien l'Italie, l'Espagne et la Suisse surtout, dites-vous. Vous êtes allé au Maroc, vous êtes allé en Tunisie, et bien entendu, j'en parlais tout à l'heure, avec America Solitude, vous avez fait le tour des États-Unis. Voilà. Et vous vivez actuellement à Montpellier ou dans la région de Montpellier ?
À Montpellier même,
à Montpellier même.
Ouais.
Très belle ville. Et puis une ville qui est riche d'abord en poètes, et qui est également riche en animation poétique, hein, plus que Toulouse. Hein, parce que vous avez la chance d'avoir une maison de la poésie,
hein,
qu'animait notre ami regretté Jean Joubert.
Oui.
Mais je pense que la succession et la pérennisation de cette maison de la poésie à Montpellier est...
Le nouveau directeur s'appelle Claude Adelin.
Ah oui, d'accord. Voilà, et je crois qu'il y a peu de temps a été présenté à cette maison de la poésie l'œuvre de Bruno Durocher par Nicole Gdalia des éditions Caractère.
Oui.
Et puis il y a eu notre ami Michel Écart et Lial qui a présenté une poétesse aussi israélienne. Hein. Donc, une ville très, très vivante au point de vue poésie, hein, Montpellier.
Oui.
Alors, J'aime Sacré, vous allez, si vous voulez bien, nous parler de vos publications. Peut-être vous énumérez, parce que ça, je ne l'ai pas fait.
Oui.
Vous énumérez les principales publications. Ce soir, nous allons parler essentiellement de quatre publications. C'est le poème « N'y a vu que des mots », « Si peu de terre tout », alors ça c'est publié au « Le dé bleu »,
«
Le dé bleu » de Louis Dubost, hein, qui lui aussi a fait un magnifique travail dans l'édition de la poésie contemporaine, qui est poète d'ailleurs lui-même, et qui vient de faire apparaître un recueil qui s'appelle « Les bestioleries potagères ».
Oui, c'est ça, oui.
Voilà, et puis « America Solitude », nous parlerons aussi, publié chez André Dimanche. Et puis, peut-être un mot de « Anna Coluptère », donc chez Tarabuste. Et puis, bien entendu, le recueil, le livre paru d'un poésie Gallimard, « Figure qui bouge un peu » et autres poèmes, avec une préface absolument splendide d'un autre poète, Antoine Emaz.
Oui.
Antoine Emaz. Alors, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur vos publications, sur le...
Non, ça représente un peu les derniers, même pas les derniers, ça représente des livres. Mon premier livre date de 1965 et depuis, il y en a eu régulièrement, tous les ans ou tous les deux ans, ça dépendait des périodes, quoi.
Alors cette bibliographie, elle est dans ce livre de poche Poésie Gallimard, hein,
elle est aussi dans le petit livre paru au Vanneau.
Paru, pardon ?
Il y a dans la collection Présence de la poésie au Vanneau à Bordeaux.
Oui, j'aurais dû le citer. Oui, absolument. Oui, une très belle collection aussi. Hein.
Oui, avec une présentation par Alexis Pelletier.
Oui.
Voilà.
Oui, il y a Gaston Puel qui est dans cette collection. Il y a pas mal de poètes aussi.
Oui.
Un beau travail qui a été fait là. Alors, pour vos publications, on oriente essentiellement donc les auditeurs sur Figures qui bougent un peu, les recueils dont j'ai parlé, puis quand même America Solitude, hein, je pense que c'est un gros morceau, et c'est vraiment une poésie plus qu'agréable à lire. Il y a une espèce de presque de jubilation, je dirais, à lire ça, même quand on ne connaît pas les États-Unis, on a l'impression de les découvrir. Moi, j'ai vraiment pas pu résister à ce livre.
Ouais.
Dès que je l'ai lu, j'ai voulu un petit peu l'offrir aux éditeurs, et j'ai pensé à cet ami là, qui était aux États-Unis. Et ouais. Je voyais un petit peu dans quel paysage il évoluait. Alors, j'aime sacré. Là, on parlait des États-Unis, mais comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes originaire de Vendée. Et vous avez longtemps vécu et travaillé aux États-Unis, certes, mais pourquoi maintenant vous êtes à Montpellier. Alors, pourquoi avez-vous choisi Montpellier pour vous établir à votre retour des États-Unis? Alors, je vous dis ça parce que, bien entendu, comme c'est notre région, on est très fiers de vous avoir chez nous, quoi.
Mais c'est très anecdotique, hein. C'est nous revenions avec toute notre maison et nos objets américains, et il nous fallait une maison assez grande. Donc Paris, c'était hors de question, c'était beaucoup trop cher. Et puis mon épouse américaine est quelqu'un de très frileux, et donc la région de Montpellier est une région pas mal ensoleillée. Et puis j'y avais aussi de bons amis, en particulier le peintre Yvon Vey, voilà, donc il y avait de multiples raisons. Ça nous rapprochait aussi de l'Italie et de l'Espagne et du Maroc, donc voilà quoi, ouais.
Il y a chez vous un goût méditerranéen. Hein. Vous êtes pourtant de Vendée, vous êtes un homme de l'Ouest, en définitive, hein.
Oui.
Par la Vendée et par les États-Unis, et pourtant, vous vous établissez là dans un ancrage très méditerranéen, parce que vous parlez de l'Espagne, vous parlez de l'Italie. On sent que vous aimez ça, ce goût méditerranéen.
Oui, mais j'ai pas de goût particulier pour telle ou telle région. Je crois que si j'habitais dans n'importe quelle région, je finirais très vite par m'y trouver bien. Donc voilà, il n'y avait pas de goût particulier. N'empêche que là, mon voisin se trouve être Jean-Claude Forêt, qui est un des directeurs des éditions Journe. Et avec lui, j'ai appris à beaucoup mieux connaître la poésie occitane et les poètes occitans qui vivent dans la région et un peu plus au loin.
Bon, on en est ravis. Alors, Louis Dubos, qui est l'éditeur Le Des Bleus, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui a édité...
Je vous entends mal, hein.
Oui, pardon. Le poème « N'y avait voilà. que des mots », vous entendez? Là, c'est mieux?
Oui, c'est mieux.
D'accord.
Oui.
Et « Si peu de terre, tout ». Donc, cet éditeur a fait paraître hein, « si peu de terre, tout ». Et vous étiez alors... parmi les poètes de cette collection que dirigeait Louis Dubos, et qui en est là à marquer quand même l'histoire de la poésie contemporaine. Et vous étiez dans l'esprit de ce qu'on a appelé la poésie du quotidien. Donc le quotidien était reconnu comme un des thèmes majeurs hein, de la poésie. Et à partir de lui, les poètes nommaient le monde, mais la trivialité allait aussi occuper le poème. Donc vous écrivez par exemple dans ce livre, le poème « Il n'y a vu que des mots », vous écrivez par exemple ceci, « Comment dire si c'est l'odeur d'une chaussette propre ou celle des sales que je préfère hein ?» Alors, cette question constitue le poème lui-même, hein. Et donc l'inclusion du quotidien dans vos poèmes leur donne une couleur familière qui les rend d'emblée habitables.
Ouais.
Il y a un sentiment de familiarité, on se sent à l'aise d'emblée dans vos poèmes. Alors comment avez-vous continué cette expérience du quotidien dans les livres qui ont suivi? Ce quotidien est-il le décor ou la passerelle pour accéder à des réflexions et interrogations métaphysiques? Ce que vous semblez dire d'ailleurs dans un poème où vous dites « J'attends la nuit, mais pas pour oublier, je vais pouvoir penser n'importe comment à tout ». C'est-à-dire qu'il y a chez vous une poésie quand même, qui est une poésie métaphysique incontestable, hein, où on sent que vraiment il y a une interrogation permanente sur le sens quand même du monde.
Oui.
Et en même temps, il y a cette langue qui n'effraie pas, qui
oui.
ne...
Je pense que la poésie depuis fort longtemps s'intéresse au quotidien des poètes en quelque sorte. Les odes d'Horace sont des odes qui parlent de son quotidien. Les poèmes de Baïf au XVIe siècle parlent très facilement d'une branche d'églantier ou d'aubépine et de petites bêtes. Théophile de Saint-Amand parle du melon qu'il a mangé ou de choses comme ça. Vous voyez, donc je pense c'est pas tellement le parti pris du quotidien qui m'intéresse, c'est plutôt celui du vécu. Hein. Je sais très bien qu'on n'arrive pas à exprimer ce qu'on a vécu avec les mots, parce que dans le transfert ou dans le rapport, il y a des choses qui disparaissent, mais je persiste quand même dans ce parti pris de parler à partir de l'expérience vécue ou du vécu simplement. Et le vécu, c'est évidemment forcément le quotidien, même quand il s'agit de choses au loin ou de ce qui est raconté par les journaux ou par des livres qu'on lit, etc. quoi. Voilà. Alors effectivement, ce quotidien pour moi, c'est en fait l'immanence du monde. Hein. Je pense que je suis pas philosophe, mais en disant que je suis quand même plutôt très matérialiste au point de vue pensée philosophique, et cette immanence du monde ouvre forcément sur l'énigme du monde, sur l'obscurité du monde, sur ce qu'on ne comprend pas dans le monde, etc. Et donc, il est très facile, quand on s'intéresse à une petite chose autour de soi, de dériver très rapidement sur les questions du vivre, des valeurs, etc. quoi. Voilà. Ouais.
Très bien, donc c'est le vécu, c'est-à-dire la poésie née d'une expérience.
Pour moi, oui. Hein. Oui. Ouais. Je pense d'ailleurs que même les poètes les plus formalistes oui. Écrivent en fait à partir d'une expérience qui est tout simplement l'expérience qu'ils font de la langue et des mots qu'ils emploient.
Est-ce qu'on pourrait vous demander, J'aime Sacré, pour illustrer un petit peu ce propos, et puis surtout...
Je vous entends mal, hein.
Pour faire paraître... pardon. Pour faire entendre cette voix poétique, hein, ce flux poétique, est-ce que vous pourriez nous lire un extrait, donc le poème « N'y a vu que des mots »
Le poème... Ah, dans le poème « N'y a vu que des mots », oui. Alors, lequel vous voulez, j'avais prévu là...
Oui. Oui, mais ce que vous avez prévu...
Même. J'avais prévu sur la photo, sur le rapport à la photo...
Oui, hein. Allons-y.
Alors, voilà, parce que vous m'aviez parlé d'un poème qui vous avait, d'une phrase qui vous avait intrigué, où la photo était comparée à une souricière, et vous me demandiez si le poème...
On va en parler tout à l'heure. Allez-y.
Alors, je vous lis d'abord ce poème, et puis après, une toute petite suite sur la photo. L'objet sur lequel s'est arrêté l'œil de l'appareil photo est un bout de ressort rouillé. Ça se termine aux deux extrémités par des tiges tordues, en général une fois, à angle droit. Ou bien c'est quelque sorte de vertèbre ou des fragments d'une plante séchée. Dans le premier cas, on pense à un mécanisme de souricière, ce que peut-être est la photo, laquelle fait semblant de proposer un endroit net de l'image à notre regard qui cherche une assise. Alors qu'évidemment, la question posée par cette figure d'objet fait que nous enfermer mieux dans la couleur et les supports flous de ce qu'on distingue mal autour d'elle. On finit par se demander ce qu'on s'imagine voir en cette figure qu'a visé l'appareil photo et qui ressemble à une vaine prétention d'être dans l'énormité brouillée du monde. Voilà, et j'avais un autre petit ensemble où j'avais travaillé avec un artiste qui s'appelle Jacques Clausel, qui m'avait donné les fruits d'un cyprès, et j'étais parti en voyage à travers l'Espagne et le Maroc avec ces fruits. Et j'avais finalement trouvé le nom de ce fruit dans un dictionnaire, mais j'avais oublié mes petites notes sur la table de la cuisine avant de partir, donc je ne les avais plus. Et voilà un peu la fin de ce poème. On peut évidemment parler d'une photo avec des mots, même si c'est, comme on dit, pour seulement tourner autour du pot. La preuve en est cet ensemble de courts poèmes en vers. L'accompagnement de l'image aura bien lieu, mais n'empêche, les mots n'auront pas dit grand-chose de la photo. Rien n'aura eu lieu que le livre, un livre. J'ai finalement su le nom générique de ces sortes de cônes et les noter sur un petit feuillet avec d'autres mots trouvés dans la définition du vocable. Le nom plus précis du fruit du cyprès m'a été donné par une image légendée... Par une image légendée, une vignette dans un dictionnaire. Un nom curieux, lequel ne convient pas si mal à ce fruit qui ne se mange pas. En somme toute, malgré l'impression que j'ai eue de m'éloigner des photos de Clausel, dans ma recherche de vocabulaire et mon plaisir de manipuler de vrais cônes, ce mot, j'ai oublié mon feuillet sur la table de la cuisine avant de partir, finalement m'en rapproche peut-être mieux que toutes les observations que j'aurais pu faire en les regardant. À cause de son allure inattendue, à cause de son bruit qui peut faire plaisir, je lui réserve donc une place à la fin de mon dernier poème pour l'y ajouter, à mon retour à Montpellier. Au Tizine Test, un matin tôt, il y en a plein d'autres, 2-3 cônes tombés comme exprès. J'y ramasse une autre pomme de cyprès. J'en reviens avec un mot. Une galbule. Voilà, donc vous voyez la difficulté aussi bien de parler d'une photo avec des mots que de parler du vécu avec ces mêmes mots. Oui.
Alors ceci c'était dans le poème « N'y a vu que des mots ».
Oui.
Et dans ce livre, vous mettez en garde, vous dites « Une peinture, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, c'est aussi ce qui a été fait ».
C'est aussi, pardon.
Ce qui a été fait.
Oui. Oui, bien sûr.
C'est comme la définition du poème.
Le c'est poème, comme c'est, la définition du poème, poème, bien sûr. Le problème, c'est que effectivement, ce qui a été fait, on le voit difficilement dans le poème autant que dans la peinture. Oui. Puisqu'on ne voit que le résultat, c'est-à-dire le poème écrit ou la peinture faite. La question reste posée, mais je pense qu'on peut difficilement y répondre, hein, en tous les cas pour moi, à propos d'une peinture ou d'une photo. Pour le poème, je peux essayer d'y répondre avec un autre poème, en pensant à l'expérience d'écrire un poème, effectivement.
Alors, comme beaucoup de poètes, vous entretenez des rapports privilégiés avec les plasticiens, avec les photographes. Il y a une complicité entre l'œuvre d'écriture et l'œuvre plastique.
Oui. Hein? Oui, je suis beaucoup plus sensible. Et les artistes, peintres ou photographes ou sculpteurs m'ont appris beaucoup plus que les musiciens. Oui. Vous voyez, parce que j'aimerais bien qu'un poème puisse se construire un peu comme une peinture, c'est-à-dire que dans une peinture, vous mettez une tache de rouge là, une tache de noir ailleurs, ensuite vous équilibrez, vous en mettez d'autres, il y a des lignes qui rapprochent ou éloignent les choses. Et dans un poème, c'est la même chose. Vous voyez, je pense qu'au lieu d'utiliser des motifs de couleur ou des motifs de dessin, j'utilise des motifs sonores ou des motifs de sens ou des motifs grammaticaux. Et donc, j'organise tout cela, je rythme chacune de ces choses à l'intérieur de ce que j'appelle un poème. Et j'aimerais bien que, comme une peinture, un poème puisse commencer à se lire par n'importe quel endroit. Ce qui m'arrive souvent quand j'ouvre un livre de poèmes, il m'arrive très souvent de commencer par les derniers textes, par exemple. Ouais. Vous voyez ? Mais il m'arrive souvent aussi, quand je lis un seul poème, de regarder d'abord ce qu'il y a tout à fait à la fin, ou de jeter un coup d'œil sur le milieu. Voilà. Vous voyez, les artistes peintres m'ont appris une sorte de matérialité du poème.
Alors, est-ce que la poésie, donc, c'est un instrument d'un lien entre les arts? Elle peut être ce lien? Vous dites, l'encre des mots continue, le fond noir du papier de la photographie.
Oui, hein? Oui, je pense pas que j'aime pas trop parler de la poésie, je préfère parler plutôt du poème, ou oui. Des poèmes. Alors, je pense pas qu'il y ait un lien transcendant, disons, au poème et à la peinture. Mais je pense qu'effectivement qu'il y a des matériaux dans l'un et dans l'autre qui permettent une sorte de continuité. Hein, par exemple, ces arrangements de motifs dont je viens de parler à l'instant. Avec la musique, ce serait effectivement aussi des motifs de rythme ou des motifs sonores qui pourraient faire le lien entre les deux arts. Voilà.
Vous faites le lien aussi entre les lieux, par exemple le dispensaire de Marrakech, votre enfance en Vendée, l'hôpital de Turkana au Kenya.
Oui.
Il y a, là aussi on sent que le poème va lier un peu ce vécu dans ces lieux différents.
Oui. Oui, alors dans ce cas-là, il y a deux sortes de choses. D'une part, il y a un lien qui se fait parce que je sois dans n'importe quel lieu, j'écris les poèmes en français, dans la même langue, et donc j'écris les poèmes avec mon vocabulaire que je me suis construit, mes façons de parler, mes tournures, etc. Hein, donc la matière poétique que je possède, que j'ai acquise, définit un peu n'importe quel lieu que je visite ou que je regarde ou avec lequel je vis un peu. Hein. Et d'autre part, il y a une autre chose qui est plus liée au vivant humain, c'est-à-dire que dans n'importe quelle société, je rencontre effectivement des différences. Quand je vais au Maroc ou aux États-Unis ou en Vendée, ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais si je m'attarde un peu et que je connais de plus en plus, au lieu d'y voir des différences, je finis par y voir des ressemblances. Hein. Voyez, par exemple, au Maroc, je retrouve toute mon enfance paysanne qui a disparu en Vendée. Voyez, et aux États-Unis, derrière tous les clichés qu'on peut avoir des grandes villes, des gratte-ciels, etc., il y a aussi tout un arrière-fond rural, agricole, qui existe. Ce sont les mêmes herbes, les mêmes graminées, bromes, dactyles ou autres que je trouve sur les bords des autoroutes ou des chemins de terre, parce qu'il y en a aussi aux États-Unis, hein, qu'au Poitou ou ici au Languedoc. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses, aussi bien dans le domaine de la langue que dans le domaine du vécu, qui font que, c'est sans doute un peu ma nature, qui font que j'ai tendance à pouvoir mettre des choses apparemment différentes, à les rassembler.
Oui. Et vous mettez toujours le doigt sur les ressemblances, hein?
Plutôt, oui, oui, voilà.
Oui. Je l'ai trouvé ça déjà dans America Solitude, hein, où vous parlez effectivement, c'est plus l'Amérique rurale, disons, qui est plus universelle.
Hein, oui, mais il y a des villes aussi, hein, plus l'Amérique rurale, oui. Parce que je vivais dans une petite ville qui s'appelle Northampton, dans l'ouest du Massachusetts, et puis j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. voyagé à travers les États-Unis, mais peut-être davantage à travers les campagnes américaines, à travers les territoires indiens dans le sud-ouest que dans les grandes villes. Hein. Mais bon, j'ai connu, j'ai aussi des poèmes sur Santa Fe ou Boston, ou, également. Hein. Mais c'est vrai que le côté rural est plus présent dans ce livre que le côté citadin habituel auquel on pense d'habitude. Quoi, oui.
Alors pour en revenir au texte que vous avez lu tout à l'heure, vous avez travaillé donc à partir de photographies et vous dites, on pense un mécanisme de souricière,
hein, oui.
Ce qui est peut-être la photo. J'ai trouvé cette image vraiment d'une grande pertinence. Alors la photographie, on peut se demander si la photographie est un piège et partant si l'écriture aussi est un piège.
Oui, c'est un peu un piège parce que on ne sait pas très bien ce qu'on cherche avec un poème et je suppose avec une photo non plus. Et souvent on trouve des choses qu'on n'avait pas cherchées. Hein, vous voyez où quand on croit dire avec le poème du vécu, comme je disais au début, on finit par dire tout autre chose. Donc le poème en quelque sorte nous piège, les mots nous piègent, parce que vous dites un mot et puis il y en a d'autres que vous n'aviez pas prévu qui arrivent. Les mots nous piègent aussi dans leur relation avec le lecteur, parce que dans un poème vous dites le mot arbre et si je parle à un Québécois, il voit tout de suite un érable. Si je parle à un Vendéen, c'est un orme ou un chêne. Et si je parle à un Marocain, c'est un eucalyptus ou un argagnier. Voilà. Hein, vous voyez. Donc on est tout de suite piégé de mille façons dès qu'on met deux mots ensemble.
Parce qu'on est piégé aussi par son propre expérience, son propre vécu. Qui diffère de l'autre et en même temps, comme vous le dites aussi, a de fortes ressemblances.
Oui, oui, hein? Oui.
Il y a les deux, quoi.
Oui, il y a les deux. Hein? C'est un piège agréable.
Oui.
Hein, le plus souvent, quand même. Hein? Voilà, oui, c'est on manque quelque chose et on acquiert quelque chose. Hein? Je ne sais pas exactement quoi, mais en tous les cas, ne serait-ce que le plaisir d'écrire en pensant à quelque chose, ou en pensant à un lecteur possible, ou en pensant au poème qui est en train de se faire. Donc voilà, il y a à la fois du négatif, mais il y a aussi de la matière qui est là, qui s'accumule, qui donne des formes, qui vous attire, qui vous repousse, qui vous provoque, voilà, hein, qui vous rend vivant en quelque sorte.
Alors vivante votre poésie, je crois qu'elle l'est beaucoup, et comme tout ce qui est vivant, on va trouver de l'humour, hein, l'humour.
Oui.
Ça c'est important, l'humour.
Oui, il n'y a pas trop d'humour dans mes poèmes de temps en temps. Oui, c'est vrai.
Je trouve que ça émaille quand même souvent vos textes. Non.
Oui, alors, la chaussette propre et la chaussette sale, par exemple, oui. Effectivement.
Mais bon, c'est un humour souvent, comment dirais-je, un peu ténu, mais qui est là. Par exemple, cet humour aide-t-il à supporter ce que vous appelez la terrible complexité du monde, puisque vous dites, alors ça c'est de l'humour quand même, le monde est tellement sans fin et compliqué tout autour.
Oui.
Bon, c'est quand même, la formule est quand même une formule pleine d'humour.
Oui. Oui, non, mais bon, l'humour est important parce que il y a une chose que je déteste, c'est quand on sent que dans l'écriture, celui qui écrit s'imagine être une voix essentielle, extraordinaire. Voilà, hein, vous voyez, celui, à ce moment-là, il ne s'aperçoit pas justement qu'il est un peu piégé, qu'il est, que son écriture est peut-être aussi dérisoire qu'elle peut paraître extraordinaire. Vous voyez, donc l'humour sert à remettre les choses un peu, à douter un peu des choses, vous voyez, mais à douter des choses d'une façon pas forcément non plus. J'ai pas envie d'être provocateur, vous voyez, par exemple, hein, l'ironie, l'humour me permettent simplement de me sentir cherchant quelque chose plutôt qu'affirmant quelque chose.
Je sens cet humour, il y a à la fois souvent un peu de dérision, la dérision de soi-même, et il y a surtout une grande humilité. Et c'est justement cette humilité qui donne la force, souvent, à l'œuvre. Hein.
Oui, c'est ça, oui.
Alors, néanmoins, vous avez quand même un regard sur le monde qui est un regard quand même... quelquefois un peu sombre. Et vous croyez que le monde que l'on connaît disparaît peu à peu, hein, pour laisser la place à l'inconnu? Est-ce que c'est la place à l'inconnaissable?
Oui, je dirais, bon, je pense que le monde n'en finit pas de disparaître, il disparaît depuis toujours, hein, les perruques et les vêtements masculins du XVIIe siècle, ça n'existe plus dans la vie quotidienne aujourd'hui. Effectivement, il y a toujours quelque chose qui disparaît. C'est forcément un peu triste, parce qu'on a aimé ce qui disparaît en général. Hein. Bon, quelquefois, il y a des choses qu'on déteste et on est content qu'elles disparaissent. Mais souvent, notre passé, notre vécu disparaît en réalité de la même façon qu'il disparaît effectivement aussi un peu dans les poèmes qu'on écrit. Hein, vous voyez, même d'écrire des poèmes qui voudraient peut-être garder quelque chose, les poèmes sont au fond aussi des machines à faire disparaître le passé ou ce qu'on a aimé, et au lieu de le donner, le poème réinvente des choses. Vous voyez, c'est un peu comme la vie en général, hein, qui est forcément toujours liée à la mort. Hein. En même temps qu'on est vivant, on est en train de mourir. Et c'est une chose tout à fait universelle.
C'est pas aussi une façon de conserver, de figer quelque chose, à un moment donné, de figer un instant, aussi le poème? Allô?
Oui.
Je disais, est-ce que le poème aussi n'est pas une façon de figer ce qui va disparaître?
Alors, je pense que c'est un risque aussi. Par exemple, dans un livre récent que j'ai écrit qui s'intitule « Donne-moi ton enfance », c'est un livre où j'essaye de parler de l'enfance, et évidemment, au lieu de parler de la vraie enfance, j'invente une enfance. Hein, il faut peu de choses, et d'une certaine façon, le poème a effectivement tendance à isoler des images, à figer, comme vous dites. Mais en même temps, il fige, mais en même temps, comme les mots sont des choses extrêmement mobiles, et à plus forte raison, les phrases, ou le phrasé, ou toute la matière du poème, en même temps, ce qui se fige dans... presque en même temps est capable de s'ouvrir à quelque chose d'autre, à de nouvelles lectures, par exemple, du poème, et à ce que le lecteur, lui, vive en imagination d'autres idées, d'autres sentiments vis-à-vis de l'enfance et vis-à-vis des mots qui essayent d'en parler dans ce poème. Donc il y a ces deux mouvements un peu paradoxaux, effectivement, oui.
Et c'est ce que vous appelez l'effritement, hein, c'est ça qui s'effrite.
Oui, si vous voulez.
Hein. Oui. Parce que vous parlez d'effritement, hein, je crois, dans ce poème, je crois que c'est dans Hospital Turkana.
Alors, c'est dans lequel, oui.
Peut-être Hospital Turkana, comme si j'étais déjà venu là.
Oui.
Une pièce dans un dispensaire, par exemple à Marrakech.
Oui.
On y est comme dans une petite gare de l'ancienne colonisation et tout s'est un peu dégradé.
Oui, oui.
Le ciment rêche dans les yeux, le métal râpé du
méthane aussi. Oui,
hein. Oui. Un jour de mon enfance en Vendée.
Oui.
Je viens d'aller chercher la nouvelle bouteille de gaz dans le garage pour l'installer à la cuisine. Le docteur venait nous soigner à domicile.
Oui. Je pense que c'est à cause de ce sentiment de l'effritement général que j'ai un goût particulier pour les choses usées, les vieilles choses, les choses qui dont on ne se sert plus et pourtant qui ont la capacité tout d'un coup de vous saisir à cause d'un détail de couleur ou d'un arrangement de leurs couleurs ensemble. Voyez, donc parce que toutes ces choses qui s'effritent en quelque sorte sont en même temps. Voyez, je pense par exemple, si vous voulez, aux peintures d'Alexandre Lannes. Vous voyez, qui peint justement des vieux ustensiles en métal émaillé, hein, qu'il récolte dans d'anciennes carrières ou aux puces et des endroits comme ça. Et voilà, à partir de cela, vous avez les tableaux d'Alexandre qui existent. Hein. Vous voyez, donc ce côté du monde... qui part comme ça un peu en guenille, et en même temps nous fait peut-être sentir plus fortement ce paradoxe que ce qui s'effrite est peut-être aussi ce qui permet qu'on fasse quelque chose de nouveau.
Ce que vous dites m'interpelle beaucoup parce qu'il y a un peintre ici à Toulouse qui s'appelle Philippe Vercellotti et qui justement peint ce que vous venez de dire. C'est exactement ça, des vieux ustensiles, oui. Etc., toujours dans les mêmes coloris. Et il y a là, bien sûr, une forte poésie hein, sur ces tableaux, mais en même temps, dans ces objets qui ont vécu, on sent que la vie voudrait de nouveau ressurgir, en tout cas, nous passe un message.
Oui, oui, mais je pense ça, oui, profondément, oui.
Alors, pourquoi dites-vous que le poème est un manque de fraîcheur ?
Bon, alors cette phrase, elle est un peu énigmatique même pour moi en fait. Je crois que le poème est un manque de fraîcheur parce que d'une part, s'il s'agit d'un poème qui essaye de saisir quelque chose du vécu ou du passé ou du vivant, c'est comme s'il arrivait toujours un peu après. Vous voyez, et qu'il est lui-même prisonnier de ses manières d'écrire, des tics, des trucs qu'il a emmagasinés et qu'il utilise quelquefois sans même s'en rendre compte. Vous voyez. Ou alors, le poème est peut-être un manque de fraîcheur parce que lorsqu'il commence à écrire derrière le désir d'écrire, par exemple, il court toujours après ce désir et il finit par n'arriver nulle part et par le perdre. Hein, et le poème s'arrête et voilà, on en réécrit un autre parce que comme on est arrivé nulle part avec le précédent, eh bien on continue avec un autre. Hein, vous voyez, c'est ça, c'est cette espèce d'impossibilité peut-être du poème de coïncider, sauf dans le moment où on l'écrit, mais de coïncider avec du vivant.
Oui.
Vous voyez, complètement.
Alors ce texte, il est dans Si peu de terre tout, hein,
oui.
Lui Audi Bleu, il dit exactement ceci, qu'est-ce qu'on peut faire avec un mot donné comme à la clé d'un poème?
Oui.
Posez la question, hein.
Oui,
et que justement, ça mène à rien. Matin et pas pouvoir partir, c'est déjà grand jour.
Voilà,
comment est-ce qu'on peut dormir si longtemps? Matin comme un midi, c'est toujours un peu comme ça, un poème, un manque de fraîcheur.
Oui, oui. Oui, je pense, hein, ce mot, je me souviens, c'était une revue normande qui m'avait donné ce mot matin pour un recueil collectif. Et effectivement, donc, avec ce mot matin, je ne suis arrivé qu'à écrire des poèmes sur le matin, avec le mot matin. Mais je doute que les poèmes parlent vraiment d'un matin quelconque.
Alors, James Sacré, vous avez bien connu le monde paysan, on a parlé de la Vendée.
Oui.
C'est un monde qui aujourd'hui est complètement métamorphosé, qui ne ressemble plus à celui de votre enfance. Et vous écrivez dans une langue qui a des façons de langue parlée. Je dis bien a des façons de langue parlée, une langue familière. Et, par exemple, vous dites décrire la façon que les paysans causent.
Hein. Oui.
Voilà. Et vous avez connu le patois.
Oui.
Alors, il y a une excellente diatribe contre la baie Grégoire, donc, qui, évidemment, vous en doutez, ne peut que nous réjouir, hein, ici, nous, Occitans, Radio Occitanie. Hein.
Oui. Mais bien sûr, surtout que le questionnaire de la baie Grégoire était très orienté et prévoyait les réponses.
Hein, absolument.
Donc, voilà. Hein, mais effectivement, quand j'étais enfant, je n'ai jamais bien parlé le patois parce que mon père parlait très volontiers et avec plaisir le patois, et ma mère, elle venait d'une ferme qui avait été une ferme tout près d'un bourg, d'un autre bourg vendéen, et elle résistait un peu au patois, vous voyez. Donc j'ai passé une enfance entre deux langues, c'est-à-dire un patois que je parlais en partie, et puis le français de l'école qu'il me fallait acquérir, quoi, voilà.
C'était le cas pour beaucoup de personnes de votre génération et même de la mienne, hein, 10 ans après, c'était encore le cas.
Hein. Oui, bien sûr. Hein. Mais chose étrange, ce patois est quand même... vous voyez, je ne m'en suis pas rendu compte, mais je m'en suis rendu compte que quand j'ai été dans un milieu de langue étrangère aux États-Unis.
Oui.
Vous voyez, parce qu'avec l'anglais... ou l'américain, enfin c'est à peu près la même chose, est une langue avec beaucoup plus d'accent fort, vous voyez, avec des rythmes beaucoup plus marqués dans la phrase, et c'est donc au contact de cette langue, je me suis rendu compte tout d'un coup que je retrouvais mon patois vendéen, mon patois poitevin plus exactement. Hein. Vous voyez, parce que le patois poitevin est également aussi plus accentué et plus rythmé que le français qu'on apprenait à l'école.
D'accord. Alors, nous, la différence, quand même, c'est que si on dit patois, c'est une injure. Hein, c'est
pour moi, le politiquement correct, ne me remplit pas. Hein, j'aime bien le mot patois, hein, même si je considère que c'est une langue, effectivement.
Oui, oui.
Hein, mais j'aime bien le mot patois. Hein, ça se rapproche, ça correspond d'abord à ce que j'ai vécu.
Nous, c'était l'occitan, c'est-à-dire la langue qu'on parlait il y a des siècles avant, quand même.
Le patois vendéen et la langue occitane, c'est un peu différent, parce que la langue occitane a tout à passer de grands auteurs, tandis que le patois poitevin n'a pas trop de grands auteurs. Oui. Rabelais l'a utilisé, Agrippa d'Aubigné également, mais il n'y a pas de grandes œuvres en patois poitevin, vraiment.
Il y a dans ce recueil un texte assez fort, c'est le portrait du père à travers les arbres.
Oui.
Est-ce que vous pourriez nous lire ce texte? Il est page 63.
Oui, je l'ai là. Je vais vous lire la petite suite là, hein, de ce texte.
Oui, voilà, hein. Merci.
Portrait du père à travers les arbres. Un chêne tout rabougri, tout, comme presque un buisson misère. À peine qu'on peut chier dessous, l'herbe mal douce, le temps ramasse encore des gestes d'autrefois. Attendez, je continue. paysan comme un arbre tranquille, avec de la fleur tilleul, à côté de la maison silence, le bleu fin du ciel. Paysans qui sont bons le foin, les poils. Quelquefois on restait longtemps, les yeux, mon père et la nuit. Paysans comme un arbre en colère, mouvement grand, tant de cris pourquoi. On sait mal, peu à peu le temps l'apaise. Demain la campagne est belle avec les foins coupés, les outils qu'on entretient. Ça donne du tonus au paysage, l'éloignement de ses cris dans le profond bleu calme. Or moutilleul, paysans qui sont fous, qui les aiment bien pourtant, portraits communs dedans, c'est pas des sourires ni des colères, leurs couleurs en automne, rien comme un cœur et quel geste fou. Portraits qu'on se demande, qui l'a pu mettre dans les arbres, c'est pas un endroit, le vent, la pluie, tout s'en va. J'allais vous lire un autre petit poème qui a rapport aux paysans un peu plus loin.
On vous écoute.
Trop peu de couleurs pour en nourrir rien de précis, ça venait du fond de l'ignorance et du monde alentour comme une insulte. Des colères, des cris, le silence informe derrière les granges, la solitude en été, le soleil, la volaille effarée. Tout s'en allait dans le travail à faire, la fatigue. Le mieux, ça serait de s'endormir le soir, de s'endormir longtemps.
Voilà, alors ça c'est le monde paysan, hein. Il y a tout le texte hein, qui continue dans ce recueil, hein, si peu de terre, tout. Dans beaucoup de vos textes, et malheureusement là je regarde l'heure,
ça tourne très vite,
hein, je vous l'avais dit, ça tourne beaucoup plus vite qu'on ne le croit, en définitive, et toujours on n'a pas abordé le tiers de ce qu'on voulait dire. Hein.
Ouais.
Alors je vais vous faire une proposition, c'est peut-être continuer cette émission et convenir si vous voulez bien. D'un jour où vous seriez aussi disponible un autre jeudi soir pour continuer ça, cet entretien qui me semble...
À continuer dans une autre émission.
Dans une autre émission, si vous le voulez bien.
Ah, si vous voulez, oui, bien sûr.
Ce serait avec grand plaisir. Et puis, peut-être, parce qu'on n'a pas trop entendu du fait de tout ce que vous avez dit et qui est important d'écouter. On n'a pas trop entendu vos textes, donc je me propose également, peut-être aussi, d'organiser ce que j'avais fait pour America Solitude, c'est de faire une émission où je lirai vos textes, si vous voulez.
J'avais prévu effectivement de lire pas mal de textes, mais bon, voilà.
Alors, écoutez, il nous reste 3 minutes.
Oui.
Si vous voulez bien, voilà, nous allons consacrer ces 3 minutes à la lecture des textes. Nous allons vous laisser 3 minutes donc pour lire vos textes.
Oui.
Et puis nous allons vous dire à bientôt.
Hein, oui. Donc, voilà.
Si vous voulez bien.
Alors, je choisis ce que je veux.
Ce que vous voulez, absolument.
Oui.
Voilà, vous dites simplement de quel livre ils sont extraits, les extraits.
Oui. Bien, je vais vous lire des textes extraits de Figures qui bougent un peu, une petite fille silencieuse.
Ah oui.
Vous me demandiez qui était Katia. Ça. Katia, c'était ma fille. Donc voilà.
À côté des iris sans fleurs. Par entière, ça, oui.
Oui. Oui. À côté des iris sans fleurs. Hein. La beauté d'un jour de juillet, grand soleil et bleu mais tempéré par les feuillages qui sont de l'ombre à la maison tranquille où j'écris. Telle beauté se nourrit de beaucoup de temps passé, de choses qui ont changé, de gens qu'on oublie, mais l'herbe de la pelouse verdit. Je ne verrai plus assise à côté des iris sans fleurs une enfant qui regarde un animal familier. Est-ce qu'un poème ressemble à la verte indifférence de l'herbe, ou s'il peut être aussi comme un geste pour voir? La persistance d'une pluie un jour d'été, avec des moments qu'on l'entend plus fort, produit de la fraîcheur qui est bonne à la moiteur d'un gros bourg, dans l'ouest rempli d'arbres et de collines de la Nouvelle-Angleterre. Quelqu'un a l'impression que toute l'activité de la pluie lui rend les façons d'être d'un corps, une jambe, un visage disparu, comme à nouveau sensible. En fait, c'est qu'un poème qui s'écrit à cause de l'attention prêtée à un bruit d'eau, à cause d'événements récents, les mots perdent leur sens sous du plaisir sempêtre en des tourments du cœur. Le beau temps de l'automne fait qu'on voudrait, à travers la qualité fraîche et bleue de l'air et parmi les volumes de feuillage qui bougent sobrement, lenteur, et la saison qui scintille, installer le théâtre des mots qui conviendrait à l'apparition dans ce paysage recommencé tous les automnes de tes joues d'enfant, de ton pas qui a franchi le temps. Le mouvement que fait dans la fenêtre tout un feuillage d'arbres, immobile à des moments puis soudain, comme emporté, presque pressant. C'est sans rapport sans doute avec toi qui n'es plus rien, mais tu aimais t'asseoir aussi devant le monde qui respire. Il respire encore et dans ses mouvements d'arbres, est-ce que j'ai tort d'entendre ton affection d'enfant qui s'inquiète? Quelquefois, tout le temps qui vient, l'automne est tellement comme un cœur, et pommes rouges dans la campagne, les érables. Je vais tout ramasser, pomme après pomme, autrefois, demain je pense à toi. C'est presque penser à rien, mais quelque chose insiste. Une larme ou ton sourire au loin, ce mot silencieux d'automne, l'entend.
Merci beaucoup, Jérôme Sacré.
Voilà.
Donc, nous reviendrons sur figures qui bougent un peu, et en particulier donc sur ce recueil de petite fille silencieuse, une petite fille silencieuse qui voudrait une émission à lui seul, ce recueil.
D'accord. Voilà. Donc vous me.
Merci beaucoup.
Ouais.
Oui. Et donc très prochainement, hein, nous allons essayer de faire en sorte de vous avoir de nouveau à ce micro. En tout cas, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous, Christophe Saint-Paul. Oui.
Et à très bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Claude et moi, nous vous souhaitons, auditeurs de Radio Occitane, une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitane et de Racine in la Terre qui va nous succéder. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Adi Siast.